Ce chiffre dédié pour le réfouachement à la guérison complète de Ethan Aaron Ben Sandrayael, petit enfant de 11 ans qui souffre d'une leucémie, qui doit faire une greffe prenant de la moelle épinière de sa sœur de 6 ans. Berat Hashem, que tout se passe bien, qu'il est réfouachement avec Torkoshav, en Israël. Sujet brûlant. Très, très, très brûlant. L'État d'Israël, en tout cas certains députés, faisons pression pour des raisons politiques sur d'autres députés, veulent faire passer une loi comme quoi les élèves de l'Yeshivot doivent aller à l'armée. En tout cas, une très grande partie d'entre eux. Et j'étais étonné de voir des réactions de bons juifs francophones qui comprennent pourquoi pas. Qui comprennent pas, disent pourquoi pas. Après tout, l'argument qui s'entend pour l'esprit non averti, on est un État, on est tous, on doit prendre sur soi le poids de défense de l'État. Les religieux comme les non-religieux profitent de l'armée, profitent de la sécurité. Aucune raison qu'il y ait une portion du peuple qui soit tranquillement en train d'étudier la Torah avec un café, et d'autres qui sont dans la boue, sous la pluie, dans le froid, dans le chaud, risquant leur vie pour protéger le peuple d'Israël. Ça s'entend pour, excusez-moi peut-être ma... à quel point je suis radical, ça s'entend pour un esprit goy. Esprit juif, goy. C'est quoi, juif? Un juif, mais il réfléchit comme un goy. Qu'est-ce que je veux dire par là, par goy? Je précise, je suis très méticuleux dans mes mots. Goy signifie en hébreu corps. Corps, gvia. La lettre hey au goy signifie corps. Au niveau du corps, au niveau physique, c'est absolument vrai. C'est pas d'armée. C'est pas d'armée puissante. Alors, face aux nombreux ennemis qui nous entourent, bon, on n'a aucune chance. Et chaque canon, chaque fusil, chaque soldat qui est en plus sur le front, il sauve un Israël. Donc, aucune raison qu'il y ait des tirs au flanc, qui, pour des raisons religieuses, ne participent pas à l'effort du peuple. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des goy, nous ne sommes pas des corps. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si un juif n'a pas compris qui il est, il ne pourra pas comprendre à quel point ce débat qui est en Israël est crucial pour un Israël. Quelle est notre essence? Quelle est notre définition? Qu'est-ce que nous sommes? On parlait ici dernièrement, c'est un cours qui n'était pas interneté, je vais en reparler rapidement ici. Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Ben, si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'il n'y a aucune définition rationnelle du juif. On n'est pas une religion, parce qu'on peut être non religieux et pourtant on reste juif. Et un non-juif qui pratiquerait toute la religion juive, il ne serait pas pour autant juif. Ce n'est pas un mode de pensée, ce n'est pas une tradition, parce qu'un juif qui ne sait même pas qu'il est juif, donc il n'y a ni à le mode de pensée juif, ni à la tradition juive. Néanmoins, il est juif. Et un non-juif, croyant qu'il est juif, ça arrive. Par exemple, sa mère s'est convertie, une conversion libérale. Il est non-juif à tout égard. Se croit juif parce qu'il a fait sa bar mitzvah et qu'on ne l'a pas dit. Et il a fait sa brit mila, etc. Et il a fréquenté des juifs et il est un non-juif, etc. Il croit qu'il est juif. Et il pratique. Il pratique, il est religieux, la tradition, il a l'héritage, il a le mode de pensée, et pourtant il n'est pas juif. Donc on ne peut pas dire que ce qui définit le juif, c'est son mode de pensée, sa tradition ou sa religion. Est-ce que c'est une descendance des enfants de Israël? Israël alias Yaakov, Yaakov notre ancêtre, Abraham, Isaac et Yaakov, il s'appelait aussi Israël, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, nous sommes un Ben Israël, le peuple d'Israël, sa descendance. Non, parce qu'il y a des convertis qui ont été souvent des grands d'Israël. Rabbi Akiva, fils de Yosef, le converti. Hillel Hazaken, qui était président, le chef de l'État, le chef spirituel de l'État, était juif. Était juif, oui. Mais descendant, son père était un converti. Ces deux Rabbanim à lui, ses deux raves, ses deux enseignants, qui étaient les plus grands de la génération, Shmaya et Avtalion, étaient des convertis eux-mêmes. Rabbi Meir Balanes, un des plus grands rabbins du judaïsme. Toutes les Mishnayot sont à l'Iba de Rabbi Meir. Chaque fois qu'on a une Mishnah sans nom, c'est comme Rabbi Meir. Donc, c'est la base de la Torah. La Gemara dans Gittin, elle dit que c'est un descendant, un arrière-petit-fils de Néron César. Les Romains disent que Néron est devenu fou. Il a mis feu à Rome. La vraie version, c'est oui, il est devenu fou. D'après ce qu'il pense, il s'est converti au judaïsme. Pour être un César, se convertir au judaïsme, il faut être fou. D'accord ? Il a mis feu à Rome, comprenant que c'était de la blague, et il est venu ici, il s'est converti. Alors, il est devenu fou. C'est resté comme ça dans leurs écrits. C'est pour ça que d'ailleurs, d'où le dicton, ils sont fous, c'est latin. Mais ils s'en foutent, c'est romain, ils s'en foutent, c'est latin, ils s'en foutent, c'est romain. Néanmoins, son arrière-petit-fils, c'est Rabbi Meir, le grand Rabbi Meir, etc., etc. Le Mashiach, descendant du roi David, arrière-petit-fils de Ruth, l'a converti. Donc on peut aucunement dire qu'être juif signifie être descendant. Quelqu'un me dira, c'est quoi être juif ? Ben, celui qui est descendant où il est descendant de Yaakov Avinu, où il est converti. Je lui dirais, ok, ça c'est comment il devient juif ? Ou par descendance, filiation maternelle, ou par conversion valable. C'est vrai, on devient juif par conversion valable, oui. Mais qu'est-ce qu'on devient ? On devient juif, mais c'est quoi ce bidule machin dont tu me parles là, juif ? Une descendance, tu n'es pas, parce qu'elle est convertie. Une religion, tu n'es pas. On dirait un peuple, le peuple juif. Ok, mais c'est quoi un peuple ? Quelle est la définition d'un peuple ? C'est un groupement de personnes défini par un dénominateur commun, qui est quoi ? Ben, tous les peuples, absolument tous les peuples de la terre sont définis par le dénominateur commun qui s'appelle leur terre. Un Français, il peut être d'origine gauloise, français de souche, d'origine allemande, d'origine écossaise, d'origine ce que tu veux. Ben, s'il habite la France depuis quelques dizaines d'années ou plus, il devient français. Un Écossais qui a quitté l'Écosse il y a 1000 ans, et depuis il habite la France. Il est quoi ? Il est français ou il est écossais ?
Français.
Il est français. Donc un juif qui habite la terre, qui habite la France depuis 1000 ans, il est juif ou il est... Est-ce qu'il est français, c'est tout ? On va dire qu'il est juif français. On va dire qu'il est juif français. Il est juif par son appartenance au peuple juif. Il est français par son appartenance géographique au... Même dénominateur commun, les gens qui habitent ce pays qui s'appelle la France. Mais jamais il perd son statut de juif. Le peuple juif n'est pas défini par la terre d'Israël. Il est certain que la terre d'Israël appartient au peuple juif, c'est nos terres, elle sera pour toujours la nôtre. C'est clair. Mais on n'est pas défini par ça. Preuve en est qu'on est né où ? Le peuple juif a été conçu où ? Dans le désert. La nation juive est née dans le désert, pas en terre d'Israël. C'est autre chose qui la rend peuple juif. La réponse, il n'existe absolument aucune définition rationnelle du juif. Aucune. Le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'il dit ? Juif, personne appartenant au peuple juif. Bon, on n'a rien avancé. Tu vas regarder peuple juif, on te dit, ensemble de personnes juives. D'accord ? L'ensemble de personnes, ça fait le peuple juif, qui est fait par des personnes juives. Allez, mais on tourne en rond. C'est quoi le juif ? On ne sait pas. Je vous le fais en très court, mais réfléchissez bien, il n'existe aucune définition. Je suis prêt à 1000 euros, d'accord ? Définition rationnelle. Il y en a qui me diront, Neshama, étincelle, ceux qui ont entendu Dieu au Mont Sinaï, ok, c'est très joli tout ça, mais je veux un truc rationnel. Goy, ça veut dire du corps, physique. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que notre essence, elle est métaphysique. On est juif parce qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. On a une alliance avec Dieu, c'est une sorte de bidule machin spirituel qui nous est venu. Qu'un non-juif peut recevoir en faisant une conversion, quand il trempe au mikvé, il reçoit ce bidule machin, une âme juive. Trelk elokamimal, comme ça dit Srasal, une partie de Dieu. Comme Dieu n'est pas définissable, on n'est pas définissable. Comme Dieu est éternel, on est éternel. Comme Dieu est un, on est un. Oui.
Il n'y a pas de définition non plus d'un musulman ?
Si. Musulman, c'est une religion. Pardon ?
Les juifs aussi ?
Non ? Les musulmans, c'est quoi ? C'est le peuple musulman ?
Ouais.
Ouais ? Ben, Mino, si tu me trouves, le peuple musulman, il est où ?
Non,
t'as la religion musulmane, t'as le peuple libanais. Parmi les citoyens libanais, tu as des Libanais musulmans de confession religion musulmane et de confession maronite, chrétienne, copte, tout ce que tu veux, même des juifs, d'accord ? Mais t'as pas le peuple musulman, ça n'existe pas. T'as la religion musulmane, t'as la religion chrétienne, t'as pas le peuple chrétien, le peuple musulman, t'as le peuple juif, qui a une religion juive aussi, mais t'as le peuple juif, qui est défini par quoi ? Pas par la terre d'Israël. Par quoi ? Torah. Notre fondement, c'est ça. On est les Bnei Israël, on s'appelle Israël parce qu'on est descendants de Israël. Yaakov, c'est quoi Yaakov ?
Madame, donc là, vous êtes en train de donner une définition, alors, parce que vous dites que c'est
Torah. Je dis comment on devient... Oui, une définition, mais pas une définition rationnelle. C'est quoi Torah ? C'est quoi Torah ? C'est quoi Torah ? Quand je dis maintenant qu'on est né dans le désert et que nos définitions, c'est le peuple de la Torah, c'est quoi ? Alors, j'ai dit, c'est un bidule machin, métaphysique, qui nous est venu, plic ! Chelek Elokamema, une partie de Dieu. Qu'on est branché avec Dieu. Et ce branchement s'appelle étude de Torah. Aussi faire des mitzvot, 613 mitzvot. Donc, parmi 613 mitzvot, tu as une mitzvot qui s'appelle étude de Torah, qui équivaut aux 613 mitzvot réunis. Yaakov, notre ancêtre, Yaakov Avinu, notre père, comme on l'appelle, notre ancêtre, la première fois où la Torah en parle, il dit Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, un homme tam parfait, Yoshev Oalim, assis dans les tentes. Il faisait quoi dans les tentes ? Internet ? Il jouait aux cartes ? Chazal dit tente de Torah, Yeshiva, étudiant en Torah. C'est notre définition. Lorsque Yaakov part en galoute, en exil, il doit aller descendre en Égypte, il envoie son fils Yehuda à Goshen, là-bas où ils vont habiter dans cette région d'Égypte. Préparer quoi ? Le terrain. Quoi préparer le terrain ? Des tentes, mettre des arbres, voir qu'il y ait des sources. Yeshiva. Yeshiva. Moi, je suis Torah, Yaakov Avinu. Je descends, Torah. Et c'est ça notre définition. Et tous ceux qui ont quitté la Torah, en 4-5 générations, sont devenus goy. Tu n'as pas, ça n'existe pas aujourd'hui, un juif qui sait qu'il est juif. Je veux qu'il y ait des juifs qui sont assimilés, qui ne savent même plus qu'ils sont juifs. Mais un juif qui sait qu'il est juif, ayant un ancêtre, on va dire l'arrière-grand-père, qui était non pratiquant. L'arrière-grand-père non pratiquant, l'arrière-petit-fils, il est goy. On n'est que 13 millions. On aurait dû être aujourd'hui au moins 600 millions, au moins, si on prend une courbe de natalité normale. Les historiens disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. Donc au prorata, on aurait dû être aujourd'hui 600 millions. Alors, j'ai une partie qui est massacrée, mais c'est beaucoup moins que 100 millions. Et ceux qui, les enfants qu'ils ont dû avoir, c'est beaucoup moins. Ils sont passés où ? Assimilés. Comment s'assimiler ? Moins de Torah. Il n'y a pas d'autre truc. Moins de Torah. Quelqu'un qui est super Torah ne peut pas s'assimiler. Mais quand il y a presque plus de Torah, et on vit comme un goy, c'est-à-dire on oublie notre identité spirituelle qui est Torah, on devient une identité physique, d'accord ? On croit qu'on vit dans le monde physique. Alors on s'assimile aux gens qui sont de même croyance que nous. Corps physique. Ken.
J'ai l'impression qu'on a parlé, le discours qui est derrière, c'est si tu vas à l'armée, tu deviens goy.
J'ai pas dit ça. Le discours, je vais le dire dans un moment. Preuve extraordinaire de ce que je dis. Mais vraiment extraordinaire de l'extraordinaire. Tout ce qui est physique a une fin. C'est toujours limité. Même le monde, il y a 15 milliards d'années-lumière, mais il a une fin. Une chose qui est métaphysique, elle est illimitée, elle est éternelle. Le prophète Jérémie dit, au nom de Dieu, dit, dans l'organe de parole de Jérémie, il dit, tant que le ciel, le soleil, la lune, la mer existera, le peuple d'Israël aussi existera. Une prophétie. On peut dire, ok, mais prophétie, personne n'est allé voir ce qui se passera dans 10 millions d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est vraie. Il est extraordinaire comment ce peuple, hors de sa terre, survit. Tous les peuples, quand tu les mets hors de leur terre, en quelques générations, ils s'assimilent, disparaissent. Nous, on reste. Et dans quelles conditions ? Persécutés, brûlés, gazés, scudés, hezbollés, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? Et on est là. Et les autres? Ils sont où, nos ennemis? Ils sont où? Depuis Nabucodonosor, tu passes par Titus, par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Mamelucs, les tout ce que tu... Combien l'Inquisition, les Croisades? Ils sont où? Finitos. Ce même peuple, le même. Même Torah, même texte, même Tfilim, même Tzitzit. Depuis 3000 ans. C'est phénoménal. Plus que cela, maintenant, comme prévu dans le texte, il revient sur sa terre. Comment on a résisté? Parce qu'on avait une armée puissante. Comment on a résisté? Pour une seule chose, que notre définition, nous, notre façon de perdurer n'est pas physique. Elle est au-delà de la physique, métaphysique. Et ça, c'est la base de compréhension de ce que c'est qu'un juif. On n'est pas un peuple physique. Si on a 3000 ans d'histoire et qu'on est invincible, c'est pas parce qu'on est des bons soldats. On n'avait pas d'armée jusqu'à il y a 64 ans. Et si on a gagné les guerres d'Israël aujourd'hui, la guerre de 6 jours, toutes les guerres, c'est pas parce qu'on était des bons soldats. Parce que c'est vrai qu'on est des bons soldats, admettons. Mais quand même, il y a une limite au surnaturel, d'accord? Dans les écoles stratégiques en Amérique, on n'étudie jamais la guerre de 6 jours. Pourquoi? Il n'y a rien à apprendre, c'est du miracle de A à Z. Un miracle de A à Z. Guerre du Golfe, 39 scouts qui tombent sur Tel Aviv en Matgan, 10 000 appartements détruits, 0 mort. Guerre, plomb durci, 4467 missiles envoyés sur Israël, 2 morts. 2 morts par les missiles, 2 morts dans les combats. Il y a un bachour qui est venu, il y a 2 jours, il vient de mettre les chiffres. Il a fait les 2 guerres, la guerre du Liban, la deuxième, et la guerre de Gaza. Il était dans les parachutistes. Il m'a dit, mais j'ai créé un testament, je l'ai mis sur moi. Je veux dire, les balles passaient entre nous sans cesse, on dormait, ça tombait, c'est les mortiers, tac, tac, j'allais dormir, c'est vrai que je n'avais pas me lever le matin. Ça tombait de tous les côtés. Tu rentres dans un gay pays qui s'appelle Gaza, où tu as 1 million d'Arabes qui t'attendent pour te tuer. Un terrain qui n'est pas le tien. Ça, de tous les côtés, ça tire. Combien de morts à la fin de la guerre? 2 morts. 2 morts. 9 tués par nous, mais 2 tués par papa. Pas parler de lui, non, mais ça va, t'es un bon soldat, mais c'est miraculeux. Et parler aux soldats, il n'y a pas un soldat qui a fait la guerre de Gaza excusez-moi, il n'y a pas un soldat qui a fait la guerre de Gaza qui dit que c'est pas un miracle. À part les athées, d'accord. Même ceux-là, il y a des cas, ils ont mis des tuilines. Ils n'y croyaient pas. Tellement les miracles étaient grands. Alors, maintenant, grâce à quoi? Alors, Hachem nous aime, d'accord? Pourquoi? Parce que les falafels qu'elles soient telles qu'elles sont bons. Parce qu'on est bon en agriculture, on est bon en high-tech. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'on est le peuple de Dieu et qu'on est branché avec lui par l'étude de Torah. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je vous le montre dans les textes. Parce que je ne parle pas aux gens qui ne croient pas en la Torah. Ils pourront toujours rétorquer ce qu'ils veulent. Mais au moins que ceux qui croient en la Torah, qui sachent ce que dit la Torah. Qui sommes-nous? Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de sources. Josué, le grand conquérant, celui qui va conquérir la terre d'Israël, se trouve face à son premier combat. Il doit conquérir Jéricho, une ville avec une muraille épaisse, haute, réputée invincible. C'est marqué dans la Gemara, traité Yeruvin 63, qu'il est autour de Jéricho en train de guetter, où il voit devant lui un soldat. Il dit, t'es ami ou ennemi? Il dit, je suis l'ange de Dieu. Alors il met sa face sur terre. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous réprimander. Je suis l'ange de la guerre. C'est moi qui me bats pour vous. C'est grâce à moi que vous gagnez les guerres. Vous, la journée, vous vous battez. Faites la guerre. Le soir, qu'est-ce que vous faites? Rentrez vous reposer. Et d'où moi je tire maintenant la puissance de gagner la guerre? D'où je la tirerai? Je vais rentrer le soir, pas de repos. Torah. Le texte dans la Torah dit, dans la Bible dit, Vayalen ba'emek. Yoshua, il a dormi dans la vallée. Emek, c'est aussi profondeur. Chazal disent, dans les profondeurs de la Torah. Yoshua rentre après une journée de combat. Il amène maintenant son état-major. Messieurs, ouvrez vos marottes. Le Rashbo il dit comme ça, le Ritvo il dit comme ça, le Rif il est Makshe, Rabbi Kevé Eger, le Tosfot. Ça c'est un Ramatkal, ça c'est un chef d'armée. Et on donne du mérite maintenant à Israël. Alors l'Angiva et on gagne. Miraculeuse ces guerres. Ben, Hachem il a un problème, les murailles elles tombent. Prrr, terminé, on rentre Jéricho, pas un mort.
Partis
à la guerre. Alors, comprenez bien. C'est clair. Alors, je vais expliquer. Avant, pour cette question, je vois qu'elle vous tient à cœur. Il faut une armée. Ça peut être Ishtadlout. On doit avoir une armée. Mais dire maintenant qu'on va prendre la Torah pour mettre la main, il n'y aura plus de Torah. La Torah. Quelqu'un, il est malade. Il doit prendre un médicament. La Torah dit, oui, tu peux prendre un médicament. Mais sache que c'est qu'une Ishtadlout. Ça veut dire, tu joues une certaine comédie. Pourquoi Hachem ne fasse pas un miracle trop éclatant, et par le biais de cette comédie que tu fais, Hachem te guérit. Comme c'est marqué, si Dieu ne protège pas une ville, alors le gardien de la ville ne sert à rien. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui guérit. Alors il faut jouer la comédie, il faut mettre un gardien, il faut prendre le médicament, et il faut une armée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on gagne? Qu'est-ce qui fait que cette armée, elle gagne? Ou elle perd à ce shalom? Le mérite d'études de Torah. Et ça, c'est marqué dans Chazal sans cesse. Et je commence maintenant, je vous cite. Oui, t'as une question.
Oui, avant voilà, c'est les mêmes qui se battaient, qui étudiaient aussi derrière.
À l'époque où t'avais 100% de gens qui étaient grands Torah. Très bien, je suis d'accord. On va faire un accord avec l'État. Tout le monde allait à yeshiva. Et on va faire des entraînements comme il faut. Un ou deux mois par année. Tout le monde va à l'armée aussi. Entièrement d'accord. Ils vont accepter. Combien vaut, c'est combien le pourcentage de gens qui vont à la Shiva? 1, 2% de la jeunesse? À tout casser. Ça, sur ça tient le monde. Sur ça tient Am Israël. C'est notre définition, c'est ça notre éternité. Tu veux prendre ça? J'ai aucun doute que la Torah d'Israël continuera. On a une promesse. On a passé pire que ça. On a passé Staline, on a passé les Russes, les Tsars qui l'ont empêché de continuer la Torah, les Grecs, les Byzantins, on a tout passé. Sans ça, on passera. La Torah est éternelle. Mais le problème, c'est l'État. Il y a beaucoup de bons juifs dans cet État-là. Maintenant, si l'État dit, nous, on veut plus maintenant qu'il y ait Torah dans Am Israël, qu'est-ce qui se passe? Qui soutient qui? Eux croient que c'est eux qui nous soutiennent. Ils donnent un peu d'argent par-ci, par-là, rien. Vraiment pas grand-chose. Qui nous soutiennent, c'est tout le contraire. Chazal dit que les Kohanim qui soulevaient le tabernacle étaient soulevés par le tabernacle. Ils portaient le tabernacle, mais c'est le tabernacle qui les soulevait à eux. Ils étaient sustentés comme ça, tac, téléportés par le tabernacle. Quand quelqu'un soutient la Torah, il est soutenu lui-même par la Torah. Le mérite de l'État d'Israël, c'est qu'il soutienne la Torah. Lorsqu'on est allé voir le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski, lorsque la première guerre du Liban, durant le mardi de la première guerre du Liban, il y a eu une bataille aérienne, la plus colossale de l'histoire. Je crois que la bataille d'Angleterre, c'est la rigolade à côté. 91 MiG ont été mis à terre. 91 MiG. Et pas un avion israélien qui était touché. Ils ont fait des pièges à rien. Ils parlaient en arabe aux pilotes. Viens. Ils allaient à la taille. Ils descendaient. Extraordinaire. Les pilotes syriens, il y avait une trouille de... Je me souviens, j'étais soldat moi sur Terre. Il y avait des avions syriens qui sont passés. Mais ils sont passés à 300 mètres à côté. Ils sont passés, ils jetaient une petite bombe, ils sont partis. Après, t'as l'avion israélien qui arrivait comme ça. Ils grelottaient de peur. Ils tremblaient de peur. Avant cette grande bataille, le Ramatkal, chef de l'armée, Raful, c'était pas du tout un religieux, t'es allé voir le Stipler à Bnei Brak. Demande une attaque très, très difficile, on veut une bracha du Rav. Il a dit, par le mérite que vous soutenez les yeshivot, allez, et que Dieu vous aide. Il n'a pas dit comme ça. Il faut un mérite. Mérite. Maintenant, si eux disent, nous on veut arrêter ça, on veut plus être responsable de la Torah, ok, la Torah continuera sans eux. Et eux, qu'est-ce qui se passera? Hachem est mort. J'ai aucun doute pour le monde de la Torah. Vous croyez que les religions. On a passé 3000 ans, on a eu les pires. Je te dis, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Tous nos ennemis ont voulu toucher notre Torah. Toi, tu es le patron, moi je vais lâcher la Torah pour toi. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Nous on continuera. Et Dieu nous aidera parce que nous, on représente maintenant la présence de Dieu sur terre, pas eux. Tant qu'eux sont associés, alors t'es avec nous. Tu veux te désassocier, ok, c'est dommage. Bye bye, glou 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 glou. C'est très grave. Parce qu'ils font glou glou, mais c'est un état entier qui va faire glou glou. Je comprends pas, on est entouré maintenant. Il y a une menace iranienne urgente. Tous les pays arabes aujourd'hui, l'Égypte, qui étaient avec nous maintenant, c'est les frères islamistes qui ont pris le pouvoir. Ça devient très dangereux. C'est maintenant le moment que tu te réveilles de lâcher la Torah. Non, mais c'est un c'est une cécité, un aveuglement terrible. Moi, je pense que c'est la fin des temps. Je pense que c'est l'époque messianique qui arrive, c'est les derniers mérites, c'est les masques qui tombent. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? T'es pour Torah ou pas pour Torah ? Et c'est pour ça que je fais ce cours-là, pour réveiller, pour informer nos pauvres frères juifs qui sont des bons juifs, qui ne savent pas et qui ne comprennent pas, qui disent « Après tout, c'est pas si grave d'aller aussi à l'armée. C'est la fin des haricots. C'est très grave. Très grave. » J'ai peu de temps, je vais avancer rapidement. Montrer dans la Torah quelle est cette optique-là, que c'est très clair que c'est ainsi que pense la Torah. Le grand guerrier qu'on a dans la Torah, c'est le roi David. Il part contre Goliath. L'histoire raconte qu'il va voir le Rav Shaoul, il lui donne son armure. Il dit « Je ne suis pas à l'aise. » Il prend 5 cailloux. Pourquoi 5 ? Les commentateurs disent par rapport aux 5 livres de la Torah. Et il vient comme ça contre Goliath. Il lui dit quoi ? Je veux un chien que tu viens comme ça. Il avait pris un bâton aussi, David. Je veux un chien que tu viens contre moi avec des bâtons. Goliath, il vient avec une armure qui va du haut de la tête jusqu'au bas des pieds. Quelqu'un qui arrive devant lui avec un bouclier énorme, une épée, un javelot, armé jusqu'aux dents. Donnez-moi une Bible francophone, il y a un truc qui se balade là. Samuel 17. Suis-je un chien que tu avances contre moi avec des bâtons ? Il maudissait David en invoquant son Dieu. Le Philistin dit à David : Viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. David répondit au Philistin : Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je viens au nom de l'Éternel Tsebakot, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. Tu viens avec l'armée, tu viens avec la force physique. Moi je viens avec le nom de Dieu. En ce jour, l'Éternel te mettra à mon pouvoir. Je t'abattrai, je couperai la tête, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël, et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Comprenez, messieurs ? L'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître de la guerre et vous livrera en notre pouvoir. Aujourd'hui, où on n'est que 2% de l'État étudiant de la Torah, il faut qu'il y ait une armée, parce qu'on ne peut pas se battre. Mais idéalement, s'il y avait 100% à l'Yeshiva, bon, on leur ferait comme ça. Ouh, d'accord, tout se part en courant. Il n'y a aucun problème. Et ça serait vraiment comme ça. Comment fait Goliath ? Qu'est-ce qu'il fait David ? Il vient, il jette une pierre. Tac ! Mais une pierre contre un casque, ça fait un casque de fer. Et bien, la pierre, elle s'éclate, elle tombe par terre. Eh bien, non. Le fer, il s'ouvre, la pierre, elle rentre et le tue. Miracle ! Qu'est-ce qu'il a voulu faire. Tous les gens croient, David, la guerre des six jours, on est les mirages, etc., on est les stars, le petit David contre le Goliath, il est beau, il est fort, il est grand. Non ! C'est un grand religieux. Le roi David, il sait tous les jours à mille points de la Torah, jour et nuit, Torah, 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 Torah. Il dit, tu veux me battre contre moi avec ton physique ? Hachem n'a pas besoin. Je vais te montrer qui est plus fort, le physique ou le métaphysique. Et regarde, pic ! Une des 5 pierres qui représente la Torah, je t'envoie. Et puis de Goliath. Dans ma côte, un certain ma côte, page 10. Encore une fois, ça ne va pas convaincre des gens qui sont athées, mais quelqu'un qui croit en la Torah, et nous devons, en tant que bon juif, croire à la Torah, on doit croire les paroles de Chazal. C'est pas des inventions, c'est grâce à ça qu'on est juif depuis 3000 ans. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je me suis dit que je parle vite parce que j'ai peu de temps et je dois dire beaucoup de choses. Adi Rabbi Yosha ben Levi, Maïdirtiv, que signifie ce verset ? C'est un verset des Tehilim. Omdot, Ayur, Agledon, Bisharech, Yerushalayim. Se tenaient nos pieds dans tes portails, Jérusalem. Dit la Gemara, Migaram le Raglenu Shiyamdu Bamilchama. Qu'est-ce qui a fait que nos pieds tenaient bon dans la guerre ? Qu'on ne fuit pas devant l'ennemi, qu'on tient bon, qu'on gagne la guerre. Sharei Yerushalayim, les portails de Jérusalem, Shayu Oskim Batorah, dans lesquels on étudie la Torah. Chazal nous dit, tu veux gagner la guerre ? Mets un maximum de gens dans l'unité d'élite, la Yeshiva. C'est ça le critère de gagner la guerre ou pas ? C'est ça le critère. Tu peux avoir la meilleure armée du monde, tu n'as pas le mérite de Dieu, et bien tu partiras en débandade. Tu parles à la plus minable armée du monde, mais tu as Dieu qui est avec toi, alors qu'est-ce que, où est ton problème ? Attends, on veut que tu sois avec nous, comment on fait ? Ben il nous dit, Torah. C'est ça ton essence, c'est ça ta définition, c'est ce que tu es, c'est ça ton éternité. Sanhedrin, page 49. Le roi David avait un général, il s'appelait Yoav ben Tsruya. Super grand guerrier. Il gagnait toutes les guerres. Il a Gemara. Rabbi Abba Bar Kahana dit, Il m'allait David, Loasa, Yoav Milchama. Si c'était David qui était là, Yoav, le général de l'armée, n'aurait pas pu faire la guerre. Si c'était David qui était là, Yoav aurait été immobilisé. Qu'est-ce qu'il a David aussi bien ? Il chantait bien, il faisait des psaumes sur la harpe, c'était ça sa force. Non, Rashi nous dit, il étudiait la Torah. Si ce n'était l'étude de la Torah de David, Yoav n'aurait pas pu faire la guerre. Mais le mérite de David tenait à Yoav pour qu'il gagne dans ses guerres. C'est clair ? Chazal. On a une paracha. Paracha de Berukotai. Comment elle commence ? C'est une paracha dans Vaikra où il y a au début des bénédictions, après une grande série de malédictions. 49 malédictions. On me dit, il y a une condition, mon cher ami. Si tu fais ce qu'il faut, bénédiction. Tu ne fais pas, malédiction. C'est quoi la condition ? Première. Im Berukotai Teler ou Bet Mishmotai Tishmeru. Si vous allez dans mes lois et vous pratiquez mes mitzvot, demande Chazal, si je vais dans les lois, c'est une chose. Si je pratique les mitzvot, c'est la même chose. Alors pourquoi c'est doublé ? On dit non. Pratiquer les mitzvot, c'est faire la mitzvot. C'est quoi si vous allez dans mes lois ? C'est you amelim batorah. Pas étudier, messieurs. Amel, peinez en Torah. Peinez, jour et nuit. Si vous peinez en Torah, il y a une suite de bénédictions extraordinaires. Vos ennemis fuiront devant vous. Mais sinon, le contraire. Vous quittez la terre, vos ennemis gagnent. Si vous faites la Torah, amenez ma Torah, cherev l'otavor barsechem, il n'y aura même pas une armée qui passera par votre pays pour aller attaquer un autre pays. Venir attaquer vous, ça ne berlal pas, mais même passer, parce que quand même une armée qui passe, c'est quand même, ça dérange un peu. Rien, la paix. Mais ça, il y a une condition. Amenez ma Torah. Tu veux enlever ça ? C'est la fin des haricots. Vous me direz, bon, c'est pas si grave, on met quelques-uns, moitié-moitié. Quoi moitié-moitié ? Lorsque Yitzhak, lorsque Yaakov Avinu rentre déguisé chez son père Yitzhak, pour recevoir la bracha, qui lui revient, il a mis une pelisse de fourrure, parce que son frère Esav est poilu. Yitzhak reconnaît la voix de Yaakov. Il dit, viens que je te tâte, que je vois si c'était bien mon fils Esav, parce qu'il est poilu. Il tâte, il dit, ah, Adam il est Esav, les mains sont celles d'Esav. Ben, col col Yaakov. Il dit contre, il dit, col col Yaakov, la voix est celle de Yaakov, et les mains sont celles d'Esav. Et il le bénit. Chazal disent, Hakol col Yaakov, tant que la voix de Jacob se fait entendre, tant que Hakol, la voix qu'on entend, c'est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav vient après se faire bénir. Il sera plus dit, j'ai déjà béni ton frère, je peux plus rien faire. Il se met à pleurer. Alors Yitzhak le bénit. Acharbecha tichye, tu vivras sur ton épée. Si Am Israël, vaya kitarid ou parakta ou l'homme, quand tu pourras te plaindre que Am Israël ne joue pas son rôle, tu pourras te lever avec ton épée et le tuer. On a une menace. Une épée, pas de Damoclès, de Esav qui est sur notre tête. On est toujours en danger. Depuis 3 millions qu'on existe, on est toujours persécuté, toujours en danger. Attention, messieurs. Il y a une condition à votre survie, Torah. Parce qu'ils savent, il a une promesse. Si maintenant, Yaakov, comme ça, Yitzhak, il a dit à Yaakov, tu seras maître sur tes frères. Il a mis un joug, tac, sur la nuque de Esav. Il ne peut rien faire. Alors Esav, il a un poignard dans sa main. Mais il est ligoté, immobilisé. Donc, si Yaakov ne joue plus son rôle de Yaakov, ne lui reviennent plus les brachot, le droit d'aînesse, qui est la métaphysique, la spiritualité, alors, il enlève le joug, Esav, et vient nous tuer. Maintenant, quelle est cette condition ? C'est quoi ce joug ? Hakol Yaakov. Tant que la voix qu'on entend, c'est celle de Jacob. C'est quoi Jacob ? Torah, Ishtan Yoshevo Alim, c'est un étudiant en Torah. Les mains ne sont pas celles d'Esav avec son épée. Il est immobilisé. Mais regardez que ce midrash-là, il est à l'envers. Il n'est pas normal. Qu'est-ce que dit Chazal ? Tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Mais le texte ne dit pas comme ça. Le texte il dit la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Donc si nous, on fait la Torah, lui, au contraire, il a le poignard. C'est ça le sens simple. Et Chazal font le contraire et disent, tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Mais c'est le contraire qui est marqué. C'est marqué la voix de Jacob et les mains d'Esav. Le secret de cette dracha est le suivant. C'est que le mot kol, on l'écrit en hébreu, kuf vav lamed. Kol. Hakol, on aurait dû l'écrire hey, kuf vav lamed. Dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué hey, kuf lamed. On peut lire hakel, allège. Pas que t'arrêtes d'étudier. Allège la voix de Yaakov, t'envoie quelques élèves, te lisent haut de la yeshiva, immédiatement les mains sont celles des saves, même que alléger un tout petit peu. Plus que ça, on a vécu 5 ans de Shoah terrible. Mais on a vécu 400 ans, en tout cas 210 ans, dont 86 ans d'esclavage en Égypte, tout aussi terrible. Il n'y a pas eu d'extermination, mais un esclavage beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On était les fils d'Abraham, Isaac, Jacob, on doit aller 400 ans en Égypte. Esclavage si dur ! La Gemara, messieurs, pose la question et c'est terrifiant la réponse. Nedarim, page 32. Ah, encore une fois, je ne vais pas convaincre avec ça des gens non croyants, mais quelqu'un qui croit en la Torah, il doit croire en Chazal. Pas croire à des tordus. Parce que la Torah, il y en a une. Il y a la vérité qui est marquée noir sur blanc. Demande la Gemara. Nedarim, page 32. Mitnema, nena, javam, mavino. Pourquoi Abraham Avinu a été puni? Je n'ai jeté Abdou, Banav, les Mitzrayim, Matam et Sershanim, que ses enfants ont été en esclavage pendant 210 ans. Parce que Hachem a dit à Abraham, ta descendance sera en esclavage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait de la Angaria avec les Talmid Chacham, avec des étudiants en Torah. C'est quoi Angaria? Le Ran sur place explique il y a 900 ans. Angaria. Sholichan la milcham, il a pris en guerre, comme il est écrit, Vayarek et Chanichav. Il a pris ses élèves. Histoire la suivante. Le neveu d'Abraham s'appelle Lot. Il habite Sodome. Viennent 4 rois qui ont fait une guerre contre 5 rois. C'est la première guerre mondiale de l'histoire. 4 rois qui sont venus de la région d'Assyrie ont fait la guerre contre les rois de la région ici. 5 rois, une guerre terrible. Et les 4 ont vaincu les 5. Ils prennent tout le butin, la ville de Sodome, avec Lot, et partent. Quelqu'un vient dire à Abraham Avinu, ton neveu Lot, il était fait prisonnier par les rois. Abraham, il est tout seul, il a sa yeshiva, mais il a 318 élèves dans sa yeshiva. Il dit, messieurs, c'est une pluie de Torah, on part en guerre. Il prend 318 élèves, ils partent en guerre, et en une nuit, il ratatine les 4 rois. Pour sauver son frère, Lot. Chazal lui disent, mon cher ami, une nuit, t'as fait faire bitoul Torah, t'as fait arrêter d'étudier 318 élèves, une nuit, impardonnable. Mais c'est pour sauver mon neveu Lot. Et alors? Et alors? Et alors? Pour ça, on arrête la Torah. 400 ans en Égypte, mon cher ami. Vous comprenez ça, messieurs? Moi, je comprends pas. Je comprends pas, j'aurais fait comme Abraham Avinu. Chazal disent, non, mon cher ami, tu prends les Talmid Chachamim, tu les fais aller à l'armée. Pour sauver, pour une mitzvah. Une nuit! Une nuit! 400 ans d'Égypte! Là, des gens inconscients, des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont pas regardé derrière eux, c'est quoi 3000 ans d'histoire, comment on a fonctionné, veulent toucher la Torah d'Israël. La Torah d'Israël continuera, mais eux sont responsables d'un peuple entier, et tu les mets en danger. Tu comprends pas, on est entouré maintenant, c'est le bon moment maintenant, là, t'as l'Iran qui est au bord d'une guerre atomique peut-être. Messieurs, maintenant, le bouclier d'Israël, on l'enlève. Allez, tout le monde à l'armée. Mais c'est des bandes de fada. Un peu de conscience. T'as une Torah, regarde. Moshe Rabbeinu, sa dernière guerre avant de mourir. C'est cette semaine, Parashat Pinhas. Il part en guerre contre Midian. Un pays entier. Combien il a de soldats, Moshe Rabbeinu? Combien il a de soldats? 600 000 soldats de 20-60 ans. 600 000. Bah qui on prend? Bah toute l'armée. Je lui dis non, mon cher ami. Non. Non. Elle est flammatée, elle est flammatée. 1000 par tribu. Comment ça fait? 12 000. Mais excusez-moi, mais je comprends pas. Il te reste 582. 588 qui font quoi? Ils jouent à la belote? Je lui dis, mon cher ami, eux vont étudier la Torah. Eux vont prier. Et 12 000 vont faire la guerre et ils vont gagner. Et ils ont gagné. Ils ramènent un butin, t'es long, on n'en peut plus tellement tout le butin. Et le butin, et le butin, et le butin. Alors comment on se bat? C'est comme ça qu'on se bat. Gideon veut partir en guerre. Il amène combien là-bas? 30 000. Je lui dis, j'ai pas besoin de 30 000. Renvoie tout ce que. Il y a 20 000 qui partent, reste 10 000, j'ai pas besoin de 10 000. fallait descendre, boire la rivière. Celui qui baisse sur le genou, annulé. Combien il reste 300. Quoi, on part en guerre avec 300 eh, laisse-moi faire, mon cher ami. C'est ce qu'il y a au Améler. Il dit à Dieu, l'armée Nabuchodonosor vient avec 585 000 soldats entre Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a au dit, mon arrière-grand-père David savait se battre. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas me battre. Moi, je vais prier. Il prie, il va dormir. Le lendemain matin, tous ratatinés, ils sont partis en courant, plus personne, rien. Mais comment on fonctionne? Mais regardez l'histoire moderne d'Israël. Il n'y a pas de guerre d'Israël où tu n'as pas des apparitions d'anges. Des anges qui, je n'ai pas le temps maintenant de vous raconter. Donc on fonctionne de façon anormale. Maintenant, tu veux enlever ça, tu veux nous rendre maintenant des corps physiques. Mais c'est fini. Pas un élève de Yeshiva devra aller à l'armée. Pas un, parce qu'il s'agit de la sécurité de notre peuple. Et celui qui n'a pas compris ça, n'a pas compris c'est quoi un juif.
Un juif français, un peu plus français que juif, on va dire, qui se dit que la Torah, Israël et l'armée, c'est la même chose pour lui. Il voit de la France un peu comme ça. Et il se dit, puis en fin de compte, c'est quoi? C'est 2 ans ou 3 ans d'armée. En attendant, il y a un roulement. Il va étudier jusqu'à 18 ans. Il reprend à 21 ans. Il va continuer à étudier après, de toute façon.
Très, 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 très bonne question. Alors d'abord, je vais répondre au Chazal qu'une nuit déjà, c'était mortel. Maintenant, la Torah, il y a besoin d'un mérite énorme. On a besoin de mérite. On n'est pas la Suisse. Ou le Canada qui n'a pas fait de guerre depuis 500 ans. On est Israël, on est entouré d'ennemis. Il nous faut des mérites. Quelqu'un qui dit maintenant, on prend un élève de Yeshiva, on le met à l'armée, c'est comme si on dit, on prend maintenant une escadrille d'avion qu'on annule. T'es d'accord?
Pourquoi dire ça?
Mais
jusqu'à 18 ans, il n'a pas eu les armes pour aller à l'armée.
T'as pas compris ce que je dis. Toi, tu dis maintenant, pourquoi faire noir ou blanc? Faisons moitié-moitié. Un peu d'Yeshiva, un peu d'armée.
Il y a beaucoup d'Yeshiva.
Ok. Beaucoup d'Yeshiva et beaucoup d'armées. Enfin, pas faire 100% Yeshiva, faisons 80% d'Yeshiva, ok? Moi, je te dis maintenant, le 100% de Yeshiva, c'est 100% de mérite. Quand tu enlèves 20%, tu n'auras plus que 80% de mérite.
Aller à l'armée, c'est pas une mitzvah?
C'est une mitzvah, mais quand quelqu'un, il peut être à l'armée, il peut être dans les commandos. Et il peut être un soldat simple. Il dit, moi, je préfère être soldat simple, mais on est en guerre, on est en danger. Ça me fatigue. Je ne peux pas faire soldat simple. Ce type-là, c'est non-assistance à personne en danger. Les commandos, c'est les yeshivotes. C'est ça qui donne le mérite le plus grand. C'est ça les escadrilles d'avion. C'est ça le fer de lance d'armes Israël, c'est ça. Si tu dis maintenant, arrêtez d'être dans l'escadrille d'avion, les commandos, allez maintenant chez les cuistots, tu mets en danger le peuple d'Israël. Quand tu dis maintenant, je fais un peu moins de yeshiva, tu mets un peu moins de mérite. C'est comme si tu prends maintenant, on va dire qu'il y a 10 escadrilles dans le peuple d'Israël, dans l'armée israélienne. Tu dis, écoutez, c'est dommage, on enlève 2. C'est exactement ce que tu fais. Alors le français moyen qui...
Il n'y a pas assez de mérite.
Hein?
Il
n'y
a pas assez de mérite, t'as dit jusqu'à 18 ans.
J'arrive pas à comprendre, tu comprends, pas ce que je dis.
J'essaie d'aller dans la tête.
On est en guerre. Maintenant, il y a un effort de guerre. On a besoin du maximum de réussite. Ce que tu dis maintenant, tu me dis, on a 10 escadrilles, c'est dommage. Mettons moins. Mais on peut avoir 10. Non, 8 ça suffit. Comment 8 ça suffit? On est plein d'ennemis. Plus il y a, mieux c'est. Non, que 8. C'est criminel. Alors maintenant, à la place de mon escadrille, tu mets mieux qu'escadrille. Tu mets yeshivot. C'est ça l'armée israélienne. C'est ça, c'est grâce à ça qu'on gagne. Tu dis maintenant, on va faire un peu moins de yeshiva, mais il y aura plus de morts, plus de blessés, moins de victoires. On nous met en danger. T'as compris ce que je dis?
Alors, si on parle dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on fait, à part l'armée, qu'on perd du temps, il faudrait étudier.
Absolument.
D'accord, donc dites ça pour tout alors.
Absolument, pour tout.
Pourquoi j'allais faire les courses? Je continue à étudier.
Idéalement, si on peut ne pas faire les courses, il faudrait ne pas faire les courses. Mais on vit dans ce monde-ci aussi un peu. Alors, le Shulchan Aruch, il a tranché, il dit comme ça. Une mitzvah que seulement toi tu peux faire, personne d'autre. Et si on ne la fait pas maintenant, elle passera. Tu dois arrêter de faire la mitzvah grande étude de Torah, faire la petite mitzvah. Par exemple, on met les tefilines. Laisse pas les courses, hein. Mets les tefilines le matin. Qu'est-ce qui est plus grand, étudier la Torah ou mettre les tefilines? La Torah dit tout de suite, étudier la Torah, c'est bien plus grand que mettre les tefilines. Alors je ne mets plus les tefilines? Non, tu dois les mettre. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah que personne ne peut faire à ta place, c'est toi et pas un autre. Et si tu ne la fais pas maintenant, ben, la journée va passer et c'est mort. Il fallait la faire aujourd'hui. Donc chaque fois que tu as une mitzvah qui passe et que c'est toi qui peux la faire, alors elle passe avant la Torah, bien qu'elle soit moins importante que la Torah.
Alors venons là, on va en parler sur...
L'armée. D'autres peuvent le faire. On est maintenant une armée, on est une grande armée.
Comment vous savez combien il en faut pour défendre?
Tu veux que je le dise maintenant? L'armée elle-même, il dit, on a que... Il y a une journaliste gauche, de gauche qui a dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez maintenant, il y a Nahal Haredi, il y a une unité de l'armée religieuse, d'accord. Il y a maintenant une demande, les soldats ils veulent ouvrir un nouveau régiment, un autre régiment. L'armée dit non, on n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas pour faire un nouveau régiment, parce qu'il faut, il leur faut une cuisine cachère, il faut des trucs cachères, on n'a pas. Déjà l'armée dit qu'on n'a pas, c'est un truc politique. Ils n'ont rien à faire avec ça, ils vont amener maintenant 100 000 chassidim à l'armée, c'est une blague. C'est de la blague, c'est de la blague. Ça, c'est vraiment de la blague. Hein? Politique. 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 J'ai pas compris. Moi, je veux pas en parler. Des gens m'ont écrit, je comprends pas.
Ils ont besoin de se faire voir, tout ça. Ils vont pas parler, je sais pas, de. Ils ont besoin de parler de quelque chose, de sujet. On sait que c'est le sujet. C'est pas
ouais,
ça, c'est
ouais. Voilà.
Alors, ils en parlent, mais nous, on n'a pas vraiment parlé.
C'est vrai. C'est la raison pour laquelle j'en parle, parce qu'il y aura des esprits simples, qui sont des bons juifs, qui n'ont pas compris, qui disent qu'est-ce qu'il y a de mal à l'armée. Je vais leur expliquer. En soi, il n'y a pas de mal à l'armée. Mais quand tu peux être dans l'escadrille, que tu es dans les commandos, tu fais maintenant un job moins important, qui amène moins d'aide au peuple d'Israël, c'est non-assistance à personne en danger. Et on est en une situation où on ne peut pas se permettre de faire ça. On est entouré d'ennemis. Donc il faut le plus de mérite possible et imaginable.
Dans votre discours, mais quelqu'un qui prend, moi, si je vois deux personnes, je vois le schéma, deux personnes, celui qui prend le plus de risques, c'est celui qui m'alarme.
Et alors ? Qui a dit maintenant que le risque qu'on prend, c'est ça qui amène le plus de mérite ?
C'est pour ça qu'on défend, non ?
Attends. Ta question est bonne. Ta question est très bonne. Tu dis, lui prend des risques. Lui souffre et dans la boue et prend des risques et risque sa vie. Tu as entièrement raison et il est digne de louange pour cela. Mais maintenant, nous, on doit être maintenant des calculateurs, voir comment faire pour gagner la guerre. Tu peux dire à l'armée aussi, par exemple, je veux l'armée, il n'est pas en première ligne. Il est au quartier général. Qu'il est en première ligne. Non, mon cher, mais on a besoin de la chef de l'armée aussi, sans ça, il n'y a plus d'armée. Si tu prends les Bahouri et Shivot, tu prends maintenant tous les. Tu prends les chefs de l'armée, c'est eux, grâce à eux qu'on gagne, c'est l'escadrille, c'est l'unité. Numéro 1, maintenant tu l'affaiblis, le peuple dit ça, tu le mets en danger très grand. Je crois que les choses sont très très claires.
Vous êtes
très
bien, peut-être qu'ils ne veulent pas faire ce programme pour gagner la guerre, ils veulent faire ce programme pour l'égalité des populations.
Oui, mais ils ne comprennent pas maintenant, les gens qui font ça, ils ne se rendent pas compte de ce que je suis en train de dire. Mais néanmoins, ils mettent en danger le peuple d'Israël. Maintenant, comment faire qu'ils se rendent compte ? Retournez en arrière à la tête, regardez comment tu as vécu 3500 ans. Regarde, tu es un miracle ambulant. Regarde les gardes d'Israël, toi-même, tu étais. Que lui ait pitié de nous, il aura pitié de nous. Qu'il ait pitié de ceux des ignorants qui leur fassent. Voir un peu la vérité. Baruch Adonai, le Raman Amen.